Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Un petit voyage à Marseille, le roman cocasse d'un grand réalisateur et une réflexion sur l'ego, c'est notre programme aujourd'hui. Le Québécois Serge Marquis revient avec une nouvelle réflexion sur la vie. Après Pensouillard le hamster qui nous incitait à trop penser, voici Egoman qui incarne le fléau du siècle, selon le docteur Marquis. Et vous, vous en êtes où avec votre ego? On vous emmènera à Marseille avec un entretien-reportage exceptionnel au MUCEM. Une exposition et un livre sur l'économie des ordures racontent comment les déchets nous envahissent dans tous les pays. Un son du monde grand format qui vous fera voyager. Et puis nous serons avec Patrice Lecomte, le célèbre réalisateur français publie un nouveau roman, un livre sur l'ubiquité, un conte philosophique qui fait de nous des acteurs potentiels, capables de vivre des vies multiples.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. En France, c'est le retour du tatoué Mathieu Colombe, libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard. Vous êtes même le directeur de la librairie Goulard.
Et oui.
Comme quoi, un libraire peut être tatoué.
Un directeur. Il faut pas se fier à la couverture.
Il faut pas se fier à la couverture. Bon, ça va Mathieu?
Oui, toujours.
Très bien. Bonjour Annick Dor.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Belgique dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe. En Suisse, il y a Dominique Bressoux cette semaine. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Et la terreur est de retour. Le Canadien Jérémy Laniel est un libraire savant, exigeant à Rosemère dans la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel. Si je suis terrifiant, c'est parce que j'aime les livres, surtout ça. Hein.
Voilà, commencez à vous justifier, vous avez raison. On verra ça tout à l'heure. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Patrice Lecomte.
Bonjour.
Vous publiez un roman drôle, absurde et fantasque. Il sera question de l'ubiquité, des rôles que nous jouons en société, en famille et parfois même donc au cinéma. Vous êtes bien placé pour savoir. Notre propre film, en quelque sorte. On commence toujours cette émission par une histoire, anecdote personnelle étonnante que je découvre en même temps que les auditeurs. Vous avez carte blanche, Patrice Lecomte.
Étonnante, je ne sais pas si elle est étonnante, mais moi elle m'a étonné.
Oui.
Et ça fait partie des plus grandes émotions que j'ai eues dans ma vie. Ça va vous sembler banal, et en fait, je crois que ça ne l'est pas. Mon père était gynécologue. Ma mère, qui avait fait ses études de médecine, préparait les femmes à l'accouchement sans douleur. Et quand ma femme a été enceinte de notre premier enfant, notre première fille, elle m'a dit, oh, dans le fond, j'aimerais bien être suivie par mon beau-père, donc mon père. Et ce qui veut dire que nous sommes retrouvés dans la salle d'accouchement pour que Marie viennent au monde. Il y avait ma femme qui était là, forcément, c'est la maman. Moi, j'étais à côté d'elle et en face, il y avait mes parents. C'est-à-dire que on a accouché, enfin, elle a accouché en famille. Une naissance est une chose bouleversante, émouvante, forte, sensationnelle, renversante, tout ça à la fois. Et on pleure beaucoup. Mais là, j'ai pleuré encore plus parce qu'il y avait mes parents qui étaient en train d'accoucher ma femme. Et j'ai trouvé ça magique.
Et vous en avez encore un souvenir très ému, hein, Patrice?
Ah, bien sûr, oui. Et d'autant que 10 ans plus tard, pour notre deuxième fille, on a recommencé.
Avec les parents?
Ben oui.
Ils ne vous quittent jamais, quoi, c'est ça?
Ben non, en tout cas pas dans les salles d'accouchement.
Ouais. Oui, c'est ça. Bon, merci pour cette histoire.
C'était très perso.
Très personnel, pour le coup.
Ça m'est resté dans le disque dur pour le restant de mes jours.
Vous l'avez déjà raconté, cette histoire-là?
Non, que à vous.
Ah d'accord. Ben merci pour cet honneur.
Je ne la raconterai plus jamais.
Merci beaucoup. Patrice Lecomte est dans la librairie francophone cette semaine. On commence dans l'émotion. Hein. Bonjour Serge Marquis.
Bonjour à vous.
Vous voyez comment c'est, hein, la librairie francophone.
Ouais, ouais.
Voilà, la générosité avec les auteurs qui sont avec nous. Vous êtes médecin et auteur québécois très généreux aussi. On se souvient de Pensouillard le hamster. Vous étiez venu ici même pour parler de votre livre On est foutu, on pense trop. Vendu depuis à 600 000 exemplaires. Et vous revenez avec un roman cette fois, entre l'essai et le roman, hein, on va dire. Vous abordez la question de l'ego. Là aussi, on est foutu, on pense trop à son ego.
Ah oui, définitivement. En fait, l'attention est accaparée constamment par l'ego. Et c'est ce qui est très intéressant d'un point de vue neurologique. On sait maintenant que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Alors, s'il est accaparé par toutes les préoccupations de l'ego, elle ne peut plus être dans le présent, elle ne peut plus être avec l'autre, elle ne peut plus être dans l'émerveillement, dans la créativité, etc. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça pour être capable de vivre pleinement nos vies.
Et vous dites que l'ego, c'est un oignon.
Ouais. Ben, en fait, c'est le résultat d'un processus qu'on appelle le processus d'identification. Quand on fait des recherches sur l'ego, on trouve toutes sortes de choses. On va en Orient, les gens nous disent là-bas que c'est un concept, une illusion, bon, etc. En Occident, on a toujours voulu le renforcer, le rendre plus gros, le rendre plus fort.
Ouais.
Mais quand on y réfléchit, on découvre que c'est le résultat d'un processus que j'appelle le processus d'identification. On s'identifie à toutes sortes de choses, à ce qu'on possède, on s'identifie à nos idées, à nos croyances. D'ailleurs, ça mène très loin parce que le problème est que quand le cerveau est entré dans le processus d'identification avec une pelure identitaire, c'est pour ça que j'utilise l'image de l'oignon, le cerveau à notre époque ne fait plus la distinction entre la perception d'une menace à notre survie et la perception d'une menace à la pelure identitaire. Il déclenche la même réaction biologique de stress, de lutte ou de fuite. Par conséquent, si on s'est identifié à un objet et qu'il y a des commentaires qui sont portés sur l'objet, par exemple un vêtement qu'on porte, et que ces commentaires sont négatifs, on va entrer en mode lutte ou fuite.
On le prend pour nous, ouais, c'est ça.
On le prend pour nous.
Ouais. Donc, alors c'est vrai, par exemple, une fonction, quand on incarne une fonction, vous l'expliquez très bien ça. Par exemple, je sais pas, un médecin, un journaliste, homme politique, policier, pompier, en fait une fonction avec laquelle on peut se valoriser.
Ouais.
Elle fait partie intégrante de nous. Voilà, on se prévaut de cette fonction.
Ouais.
Et donc à partir de là, l'ego finalement nous submerge.
Oui. Tout à fait, parce que on est tellement identifié à ce que nous faisons, mais ça fait très longtemps qu'on fait ça. On s'est identifié aux objets qu'on fabriquait, donc on mettait notre signature dans une pointe de flèche. Alors on s'identifie à ce qu'on fait. Aujourd'hui, on s'identifie à sa profession, ce qui crée des dommages majeurs, parce que quand une personne reçoit des commentaires négatifs à propos de ce qu'elle fait. Mmh. L'artiste, par exemple, qui crée une œuvre et qui reçoit des critiques négatives à propos de son œuvre, va prendre ces commentaires-là à son propre sujet et va entrer dans un état parfois dépressif parce que c'est comme si on avait fait des commentaires sur son être.
Mais c'est un peu ça.
Non.
Mais si, quand on incarne les choses, quand on est artiste, par exemple, puisque vous citez les artistes.
Oui, mais je distingue tout ce qui est de l'ordre de l'ego, des pelures identitaires, de ce qui en nous ne vieillit jamais. J'emprunte cette phrase-là à Marie de Hennezel, je la trouve très importante, parce que la créativité, ça fait partie de ce qui en nous ne vieillit jamais. Et ce n'est pas une pelure identitaire, la créativité. Je ne perds pas ma créativité s'il y a des critiques négatives à propos d'une œuvre.
Mmh.
Je demeure créatif. Mmh. C'est très important. Je ne perds pas ma créativité si je perds mon emploi. Malheureusement, il y a des personnes qui ont l'impression d'être complètement débranchées de leur créativité parce qu'elles ont perdu leur emploi. Et c'est fondamental de reconnecter avec ce qui en nous ne vieillit jamais.
Alors, dans votre roman, on suit plusieurs personnages, dont un petit garçon qui va très tôt se poser la question de l'ego. Il va devenir aveugle à l'adolescence et il renvoie à sa mère sa vie nombriliste, sa vie égotique. Sa maman, elle est médecin, elle soigne les enfants malades. Et finalement, elle a aussi son propre ego, même en tant que médecin. Alors, vous êtes médecin vous-même, donc ça veut dire que les médecins sont aussi dans l'ego. C'est-à-dire que s'ils perdent des patients, c'est un échec pour eux-mêmes.
Ah oui, mais ça va même au-delà de ça. Dès la faculté de médecine, il y a beaucoup de médecins qui, déjà, on les voit marcher au-dessus du sol, c'est comme s'ils flottaient. ils sont déjà dans l'ego, je suis tellement extraordinaire. Et d'ailleurs, ils sont très fiers de dire à bien des endroits, je dis pas tous, là, mais ils sont très fiers de dire je suis médecin. Hein. Déjà, il y a une espèce de. Ils ont l'impression d'avoir une espèce de notoriété uniquement en prononçant ces mots-là. Et cette femme, ce personnage, Maryse, ce que je voulais démontrer, parce que j'en ai connu au cours de ma pratique, je voulais démontrer qu'elle est tellement dans l'ego qu'elle n'est plus présente aux enfants qu'elle soigne. Et il y a des enfants qui sont là pour lui rappeler.
Oui, il y en a un qui le fait.
Qui le fait. Mmh. C'est son rôle premier. D'ailleurs, dans sa seule présence aux enfants qu'elle soigne, elle peut déjà les aider en grande partie à aller vers la guérison.
On va aller voir du côté de nos libraires. Il y en a deux d'abord qui vont intervenir, Serge Marquis. Canada ou Suisse, on commence par qui?
Ah, allez-y, par la Suisse.
La Suisse, Dominique Bressoux, allons-y.
Alors voilà, pour moi, c'est le type même du livre problématique pour une librairie. Est-ce qu'on le classe en développement personnel ou en roman? Alors, cette indécision, ça se dissipe normalement à la lecture, mais pas pour ce livre. Bien que ce soit clairement un roman, j'ai eu l'impression que vous meniez vos personnages à la baguette, sans grand souci de vraisemblance, pour prouver votre théorie. Mais comme vous parlez beaucoup de tendresse et du fait qu'il est plus important d'être capable d'aimer que d'être aimé, j'ai finalement apprécié cette lecture.
Bien.
Ah, merci.
Jérémy Lagnel au Canada, au Québec, vous savez qu'il n'est pas facile, Jérémy. Allons-y.
Bonjour Jérémy. Bonjour Serge. Vous savez, Emmanuel, Roland Barthes, tu es l'auteur, hein, et à force de les côtoyer, ces auteurs, je dois quand même lui donner raison. Le cas de Serge Marquis en est un probant. L'homme est tout simplement incroyablement sympathique, mais je suis tout sauf le public de son bouquin. Il s'agit d'un roman non mal écrit, mais d'un roman à thèse, hein, qui tout au long de la lecture, tente de nous convaincre d'une morale, d'une idée, d'une vérité. Le procédé est peut-être efficace pour les adeptes et ceux qui sont intrigués, mais le lecteur que je suis, je me suis trouvé complètement en absence de littérature,
naturellement. L'entreprise était évidente. Mais bon, vous le savez, Emmanuel, plusieurs vous diront que j'ai sûrement un problème d'ego.
Non, mais il faut oui, surtout pas que vous compte. Le preniez pour vous. Hein, oui, parce qu'on parle que du livre.
Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà.
Non, mais c'est tout à fait
il faut
juste.
Savoir se déconnecter, Serge. Hein.
Non, mais c'est très
tout
important.
Tout va bien?
Oh, ouais, je vais très bien.
Il y en a deux autres, on verra tout à l'heure. Ouais. On va écouter la BO du roman. En attendant, on vous a demandé quel titre illustrerait le mieux votre livre, comme dans un film. Et vous avez choisi Serge Reggiani, avec ce titre, L'Arabe, que vous citez plusieurs fois dans le livre. On écoute un extrait et vous nous expliquez.
On a marché dans le sable, deux jours sans se dire un mot. Mais quand j'ai flanché l'Arabe, tu m'as porté sur ton dos. T'es bien le premier Arabe qui me porte sur son dos. Harassé de tempête, on s'est écroulé, épuisé. Et là, comme deux bêtes, on s'est enroulé dans la même veste, sous le vent glacé. Regarde l'Arabe, bon Dieu, pince-moi, lève-toi. C'est elle, c'est la ville, debout fait néant. Dans mes bras, l'Arabe, nous sommes vivants.
Pourquoi ce titre, Serge Marquis, Serge Reggiani, l'Arabe?
Ouais, ben, il y a plusieurs endroits dans le roman où il y a un petit bonhomme qui est un Arabe, qui devient un grand ami de Charlot. Et ils sont tous les deux victimes d'intimidation à l'école à cause de leurs différences. Et je voulais montrer que très tôt, un enfant peut s'intéresser à la question de l'ego, en fait, parce que c'est à cause de cette présence de l'ego qu'il y a intimidation. Ça, on n'en parle pas beaucoup quand on parle d'intimidation, mais cette incapacité d'accepter la différence. L'ego n'accepte pas la différence. L'ego veut être unique, spécial, etc. Alors, dès qu'il voit la différence, il veut la détruire. Et à l'école, Charlot est différent, Charlot va devenir aveugle. Évidemment, Hamid, qui est différent à cause des vêtements qu'il porte, etc. Ils sont victimes d'intimidation et ça conduit Hamid très, très loin, d'ailleurs.
Il va suicider. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dramatiques dans ce livre, Serge Marquis, parce qu'il y a cette petite fille, enfin, cette jeune fille, puisqu'elle va devenir adolescente, qui est la copine de Charlot, qui va être atteinte d'un cancer, qui va en mourir. Ouais. Lui, il va devenir aveugle. Le meilleur ami, il se suicide. Enfin, c'est horrible. On en est obligé d'en arriver là pour réaliser, pour prendre conscience de l'ego?
Pas nécessairement. Mais je voulais, dans le premier livre, j'ai travaillé beaucoup sur l'humour, c'est beaucoup plus léger. Là, je voulais travailler complètement dans un autre registre.
Ah bah oui, là, c'est réussi.
Ah, c'est ça. Je voulais montrer...
presque glauque, hein, parfois.
Mais je voulais aussi montrer qu'il y avait... la lumière pouvait... À chaque événement tragique, il y a toujours des éléments lumineux qui apparaissent. Ouais. Toujours, toujours. À travers les éléments tragiques, évidemment, je vais utiliser un cliché, mais il y a des apprentissages qui sont faits par tous les personnages.
Et vous dites qu'il faut être dans la présence.
Ouais.
Alors là, qu'est-ce que c'est, ça, la présence, Serge Marquis? Parce que vous dites que quand on s'inscrit dans l'instant présent, finalement, il ne faut pas s'inquiéter ni de l'avenir ni du passé.
Non.
Comment on fait, docteur?
On amène son attention tout simplement dans le présent. Je suis là en train de vous écouter, je ne suis plus en train de me dire qu'est-ce qu'on va dire de mon livre, etc., etc. Ça, quand je suis à ce niveau-là, je ne suis plus dans le présent. Je peux m'en rendre compte. L'attention ne peut pas être à deux places en même temps, je le rappelle. Et l'attention peut être facilement accaparée par les peurs que l'ego... L'ego est constamment dans la peur.
Mais on a
la
tout le temps peur. On a peur de perdre son travail, on a peur pour ses enfants, on a peur d'être malade, on a peur de perdre des proches, on a peur de la séparation, on a peur de tout ce qui peut arriver de négatif et qui finalement arrivera un jour.
Ah oui,
c'est affreux, docteur. Comment fait-on pour se sortir de là? On a tous une peur.
Oui, absolument. La peur est une des émotions les plus primitives que l'être humain a pu connaître. C'est, entre autres, la peur a permis à l'espèce humaine de survivre. Si on n'avait pas eu peur, on n'aurait pas survécu. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la peur qui est saine. Il y a une peur qui est saine. Mais il y a des peurs qui sont complètement inutiles, ridicules, absurdes.
Par exemple?
Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Maintenir mon image, etc., etc., à gauche et à droite. Des discours complètement inutiles qui nous empêche d'être présent, justement, parce que quand l'attention est accaparée par ces discours-là, mon attention n'est plus ici.
Annick Dor, pour la Belgique, le livre de Serge Marquis vous a-t-il séduit?
Mais en partie. Alors moi, j'ai trouvé le sujet vraiment très très intéressant. Mais j'apporterai un petit bémol, c'est que je crois qu'il y avait justement cette surenchère d'événements dont vous avez parlé. En tout cas, quelque chose qui semble par moments un petit peu exagéré. Et ça fait beaucoup, hein, le suicide, le harcèlement, le cancer, enfin tout ça. Et je me suis demandé si à la longue, ça ne déforçait pas quand même un petit peu le propos. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé lire ce livre.
D'accord. Mathieu Colombe, pour la France.
Un peu à l'instar de mes petits camarades, mais je suis quand même beaucoup plus modéré, donc effectivement, j'ai pas forcément adhéré au côté romanesque du livre. Néanmoins, la réflexion qui nous amène à avoir sur nous-mêmes, tout ça, c'est vraiment très 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 passionnant, ça pousse un peu à se remettre en question, et c'était très agréable. Et en plus, je pense aussi que si, parmi nos auditeurs, il y a des gens que la lecture d'un essai rebute et qui se posent des questions sur eux-mêmes, je pense que ce bouquin est complètement indiqué dans leur cas.
Oui, c'est ça, c'est qu'on a affaire à un roman. Et finalement, on lit un essai. C'est un peu ça. Existe-t-il des cas particuliers où l'ego est nécessaire, Serge Marquis ?
On va souvent poser cette question-là. Moi, je crois que quand on arrive à être complètement dans la présence, à ce moment-là, tout notre potentiel, toute notre capacité s'exprime. Mmh. Et que ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui me disent, si on n'a pas d'ego, on ne pourra pas réussir. C'est faux.
Pour moi, mais un acteur, par exemple, il a besoin d'un ego.
Je ne suis pas certain.
Non, Patrice Lecomte.
Oui, moi, je pense qu'il est surtout fréquenté. Qu'un acteur et que nous tous... Nous avions tous besoin d'un ego plus ou moins surdimensionné, ça c'est une autre chose, mais que vivre, essayer d'exister dans cette société, quelle que soit notre fonction familiale, professionnelle ou autre, sans ego, je pense qu'on est mort.
Vous avez un ego surdimensionné, vous ?
Aujourd'hui, ça va, mais demain, ça peut être pire.
Le succès des bronzés, tout ça, ça vous a monté à la tête un moment ou pas ?
Non, du tout.
Jamais.
Vraiment jamais.
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 Serge Marquis.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'ego, qui essaient de démontrer qu'on peut arriver enfin à une espèce de paix intérieure, de bien-être, si on arrive à apaiser l'ego. Mais souvent, ce sont des gens qui sont dans les monastères ou des gens qui nous parlent d'une illumination qu'ils ont connue. Et ça nous paraît totalement inaccessible. Et ce que j'ai essayé encore une fois de démontrer, c'est qu'au quotidien, il y a deux façons de se comporter neurologiquement. Il y a toute la dimension égoïque et il y a la dimension de la présence. Et on oscille constamment entre les deux. Et en ce qui me concerne, c'est dans la présence qu'on se développe et qu'on savoure son existence réellement.
Alors justement, la présence, avec la France qui vote ce week-end pour élire le nouveau président ou la présidente, une femme ou un homme politique sans ego ne peut pas exercer ses fonctions. Ça, c'est la définition de l'homme politique, non ?
Ben, je cherche encore l'homme politique qui va vraiment être au service du bien commun et non pas au service de son propre ego. Et j'ai beaucoup de difficultés à le trouver.
Tous les chefs d'État du monde ont un ego surdimensionné ?
Pas tous. Il y en a qui sont arrivés à travers la politique ou à l'extérieur de la politique, à être vraiment au service du bien commun. Je pense que Barack Obama a été, pendant une certaine période, un homme très au service du bien commun. Des grands personnages comme Gandhi, Martin Luther King, etc., ont apaisé leur ego.
Patrice Lecomte.
Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Et moi, c'est la question que j'aurais envie de poser à tous les hommes politiques ou femmes politiques, quels qu'ils soient, c'est... Quel est le pourcentage d'ambition personnelle et le pourcentage d'ambition nationale ?
Voilà.
Je ne sais pas si on peut quantifier ça, moi je crois qu'on peut.
Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes ? Est-ce qu'à un moment, ils ne sont pas perdus eux-mêmes ?
Ils n'osent pas le savoir parce qu'ils se planquent derrière le petit doigt.
Déjà, oui.
Mais c'est vrai que c'est 70% pour leur pomme et 30% pour le pays. Ou, ça dépend des gens, bien sûr, mais ça me terrifie. Et c'est une question qu'on ne pose jamais aux hommes politiques parce qu'ils ne sauraient peut-être pas répondre.
En tout cas, c'est très important d'aller voter. Hein. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller voter.
Comptez sur moi, je vais y aller deux fois.
Merci beaucoup. Merci Serge Marquis. Vous restez bien sûr avec nous.
Merci
Le jour où je me suis aimé pour de vrai est paru aux éditions La Martinière. Après Pansouillard le hamster, vous mettez en scène un nouveau personnage, Egoman, qui lui aussi donc fait du tort aux pauvres humains que nous sommes. Merci Serge.
Merci à vous.
À suivre un entretien-reportage à Marseille autour des déchets du monde. Un livre et une expo au Mucem racontent le désastre mondial des ordures. Et voici le tout nouveau titre du duo malien Amadou et Mariam dans la librairie francophone.
Ni yeah.
C'est le nouveau titre d'Amadou et Mariam, Beau fou ça fou sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vous parlent des coups de cœur et des coups de gueule. Et on commence avec un coup de cœur, je crois, en Belgique, Annick Dor.
Oui, un coup de cœur pour le livre de la Belge Anne Evrard qui s'intitule « Le guide du burn-out ». Mmh. Alors le burn-out, c'est encore quelque chose finalement d'assez mal connu et pas toujours bien interprété. Et la mission du livre, c'est d'accompagner les gens qui en souffrent de manière simple, efficace, puis lisible aussi, même pour quelqu'un qui est vraiment épuisé. Et puis pour des gens qui ne pensent pas être concernés, le livre permet de mieux comprendre le phénomène et peut-être de s'en prémunir. Et alors tout au long de l'ouvrage, il y a une série de témoignages qui incitent vraiment à la bienveillance avec soi-même et avec les autres. Donc je le recommande chaudement.
Ça fait rire Serge Marquis. Le burn-out, question d'ego aussi ?
Oui, en partie.
Ah oui, aussi. Vous êtes tout le temps dans le truc.
Non, non, mais c'est parce que moi j'ai travaillé sur le burn-out toute ma vie.
Oui,
et ça fait 30 ans que je soigne des gens qui font des burn-out. Et je suis très heureux que quelqu'un ait écrit un livre là-dessus parce qu'il faut toujours en reparler. C'est super important.
Et c'est une Belge, Anne Evrard, chez Albin Michel. Ouais. Merci beaucoup, Annick. En France, Mathieu Colombe, coup de gueule ou coup de cœur ?
Alors, c'est un coup de cœur, oui. Et c'est aussi une meilleure vente, c'est la meilleure vente du rayon littérature. Et c'est le tour du monde du roi Zibeline de Jean-Christophe Ruffin.
Ah bah oui, qui était là il n'y a pas très longtemps.
Qui était là il n'y a pas longtemps, et donc bon, vous en avez déjà, on en a déjà parlé, donc voilà. Mais bon, excellent roman, j'ai complètement adhéré au principe, c'est très intéressant. Et en plus, ça donne un peu un relief, certes très romancé, mais à ce personnage dont on ne connaissait en fait que ses propres écrits, dans lesquels il se livrait en fait très très peu.
Ouais.
Comme l'a souligné l'homme.
C'est un très bon roman, il faut lire Jean-Christophe Ruffin, oui. Il y a plein de romans extraordinaires, hein. Vraiment c'est Ruffin, lisez Ruffin, c'est tout ce qu'on peut vous dire, c'est chez Gallimard. Merci Mathieu. Et nous partons à Marseille à présent, dans le sud de la France, au MUCEM, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Une exposition et un livre qui vient de paraître décryptent l'économie des déchets sur le plan mondial. Le MUCEM est un cube à l'architecture étonnante qui est devenu l'un des emblèmes de la cité phocéenne. Il est situé au bord de la mer, entre le port de commerce et le vieux port, à fleur d'eau. Voici le son du monde de la semaine, un son du monde grand format.
Passer le contrôle parce qu'on est sous le contrôle de ces Vigipirates.
Bonjour. Donc c'est pareil, hein, t'es obligé, est-ce que tu veux
aussi. Merci. Ascenseur sur notre droite, on a des escalators, c'est une possibilité. Il y a un certain nombre de travaux là en cours.
Ah oui.
Mais on va passer par un autre.
Alors, on est juste à côté du Fort Saint-Jean, là, juste en face.
Voilà, on est en face du Fort Saint-Jean, on est derrière la fameuse résille et on est sur cette passerelle qui, tout autour du musée, permet au public, tout doucement, de monter d'un niveau vers l'autre.
Bonjour Denis Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes conservateur général du patrimoine au MUCEM. L'exposition « Vie d'ordure » se tient à Marseille jusqu'au 14 août. Le livre publié par les éditions Artlis raconte ces vies parsemées d'ordures à travers les pays de la Méditerranée. Marseille, réputée ville sale, qui accueille cette expo, c'est une provocation ou c'est de la sensibilisation ?
Non, c'est pas de la provocation, c'est effectivement Marseille ville sale, comme le disait un certain nombre de voyageurs déjà au XVIIIe siècle. Mais notre objectif, ce n'est pas de stigmatiser Marseille, bien entendu, c'est de parler de la poubelle méditerranéenne au sens large et de montrer de quoi elle est composée, mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait.
Voilà, alors avec ces sacs poubelles, c'est très étonnant parce qu'on a un mur de sacs poubelles qui gonfle. Je vais vous faire écouter le bruit des sacs poubelles qui gonflent et qui se dégonflent. C'est assez étrange. Qu'est-ce que c'est la symbolique, Denis ?
C'est une œuvre de Nils Folker, un artiste allemand,
Et c'est quoi, c'est ça qu'ils ont foncé? C'est ben finalement, c'est l'image de l'emprise des déchets sur la planète, c'est-à-dire à peine nous avons vidé un sac poubelle, qu'il est déjà à nouveau rempli, et c'est sans fin. Puis ensuite, on va essayer de rentrer dans le contenu de la poubelle.
Comment, un peu comme dans le livre, hein, c'est ce qu'on fait dans ce livre, on entre dans le contenu des poubelles du monde et ce livre, cette expo raconte nos manières de vivre. On voit par exemple que les pays très prospères comme la Suisse produisent plus de déchets que d'autres. Il y a un diagramme en ouverture du livre qui montre de façon flagrante que les pays riches consomment beaucoup plus et ont beaucoup plus de déchets.
Le déchet, il est facteur de la consommation. Plus on est riche, plus on consomme et plus on fait de déchets. Et puis, on fait des déchets différents, ce qu'on va montrer d'un pays à l'autre. Dans les pays, disons, qui font le moins de déchets, les pays du sud de la Méditerranée, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Algérie, on va voir, et on le montre sur une carte, que la majorité du déchet, plus de 60%, sont des déchets organiques, des épluchures, par exemple. Tandis que les pays plus développés, disons plus industriels, la majorité du déchet, c'est plutôt des emballages. Et c'est des choses qui, du coup, sont très difficilement recyclables, qu'on va retrouver, on va le montrer, dans la mer ou dans d'autres endroits. Vous avez parlé de la Suisse, on peut parler de l'Allemagne, on peut parler du Danemark, qui est un pays qui recycle beaucoup, mais qui a 4 fois plus de déchets par tête d'habitant que le Maroc. Hein. On passe, le Maroc, c'est 200 kilos par an et par habitant. Le Danemark, c'est 800 kilos.
On sait que chaque année, plus de 20 millions de tonnes de déchets sont déversés dans l'océan, 80% de plastique et 100 000 animaux marins en meurt chaque année. On va retrouver Franck Pourcel qui devrait être dans une salle là, à côté de ses photos. Voilà, avec plein de photographies, notamment des photographies de Turquie, d'Albanie. Bonjour Franck Pourcel.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici au MUCEM. Vous êtes photographe, l'un des plus grands photographes de la région. Vous êtes parti en mission dans plusieurs pays pour photographier les ordures et le traitement des déchets. Et à Tirana, en Albanie, vous avez réalisé un reportage sur un groupe de Roms. Vous le racontez dans le livre. Un groupe qui est spécialisé dans la collecte de déchets. C'est une population qui en vit.
Plutôt qu'en survie, c'est plutôt difficile comme métier. C'est certainement le dernier métier qu'ils peuvent faire et qui, ne pouvant plus vivre de l'agriculture dans ces montagnes qui se désertifient au fil des ans, descendent vers les villes et particulièrement sur Tirana pour venir travailler le déchet.
Et à Istanbul, il y a une grande filière du recyclage. On est justement juste à côté d'un objet très encombrant, très symbolique aussi, puisque dans le livre Vie d'ordure, Pascal Garret a suivi un jeune récolteur de déchets. Vous êtes parti, vous aussi, en Turquie, Franck Pourcel. Décrivez-nous là ce que nous avons juste en face de nous, un diable avec un immense sac.
Oui, c'est un peu l'objet qu'utilisent les ramasseurs de déchets. Donc c'est un grand sac appuyé et tenu sur un grand diable. Pascal Garret montre très bien le parcours que fait ce personnage en déambulant dans les lieux les plus touristiques d'Istanbul. Et il se promène avec ce sac qui, à la fin de la journée, pèse une centaine de kilos. Hein. Donc c'est vraiment l'objet qu'utilise le ramasseur de déchets.
Alors, on le voit à Rio, on le voit dans plusieurs villes du Brésil aussi, où il y a des ramasseurs de canettes qui en font justement un petit business pour survivre. Juste en face de nous, là, il y a un pan de mur avec des bateaux qui sont démantelés. Car vous êtes parti, Franck Pourcel, justement dans la région d'Izmir, où sont démantelés les bateaux. Ce sont de très gros déchets, les bateaux, qui il faut aussi gérer. C'est pas si simple, ça.
Oui, c'est le seul site en Méditerranée de démantèlement des navires et des plateformes pétrolières. Comme on peut le voir sur la photographie, il y a aussi des plateformes pétrolières. Donc c'est un lieu assez étonnant, complètement fermé, où il est difficile de pénétrer. Bon, j'ai eu très peu de temps pour y rentrer. J'ai pu rapidement faire des photographies avant d'être un petit peu mis sur le côté et en me disant, bon, maintenant, il faut partir.
Donc, vous n'êtes pas très bien accueilli là-bas, hein, vous le racontez.
J'ai pas été bien accueilli parce que c'est une zone forcément où il y a du trafic. Des personnes qui me regardaient d'une manière bizarre jusqu'au moment où j'ai été menacé. Face à ces côtes-là, il y a Lesbos, les côtes grecques, et c'est un départ idéal pour faire passer des migrants.
Qu'est-ce que c'est, Denis Chevalier, là, au centre de cette immense salle du Mucem, des baraques avec des chiffons, des t-shirts de toutes les couleurs qui font le toit et les murs de la cabane?
Alors, celle qui est là, qui est effectivement recouverte de t-shirts, d'un millier de t-shirts, qui ont été d'ailleurs procurés par les chiffonniers d'Emmaüs de Marseille, elle va parler de quoi? Elle va parler de la fripe, c'est-à-dire qu'elle va parler de la deuxième vie de nos vêtements à partir du moment où nous les donnons à un organisme caritatif parfois. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? On va expliquer que ces fripes, pour 90%, elles vont se retrouver dans des circuits commerciaux chez des grossistes et elles vont, pour certaines d'entre elles, être exportées en Tunisie.
Où, un grand business de la fripe en Tunisie.
Où elles vont faire l'objet.
Voilà, on entre dans la petite maison de t-shirts.
D'une économie, d'une petite industrie. Elles vont commencer par être triées par des ouvriers dans de grandes usines qui vont séparer les différentes catégories de fripes et vont distinguer les catégories les plus chères des catégories qui vont se terminer en déchets, en chiffons et parfois qui vont même partir en tant que telles dans d'autres pays du monde et en particulier en Inde ou au Pakistan.
De cet endroit sinistre finalement avec vous Denis Chevalier, Franck Pourcel, on va se diriger vers une grande baie vitrée ici dans cette exposition Vie d'ordure au Mucem avec la mer Méditerranée que l'on voit ici. Peut-on supposer de façon raisonnable, je dirais, ou polémique ou en tout cas effrayante, que cette mer Méditerranée qui est face à nous ici à Marseille, elle puisse devenir impraticable? Pas de baignade, pas de pêche.
Vraiment pas le souhaiter, mais si les choses continuent comme ça, il y a de fortes chances pour qu'à la fin du siècle, la mer soit réellement impraticable. Le gros problème de la mer en général, des océans et de la mer Méditerranée aussi, c'est le fait, c'est les plastiques et en fait le fait qu'ils se dégradent et qu'ils se transforment en micro-déchets, en micro-particules qui elles sont absorbées par le vivant mais qu'on ne voit pas. Vous pouvez tout à fait nager dans une mer où il y a beaucoup de microparticules, vous les verrez pas forcément. Et donc le risque, c'est surtout que la Méditerranée devienne une mer morte, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de vivants, d'organismes vivants à l'intérieur de la mer. Et ça, c'est effectivement ce qui nous pend au nez si on ne prend pas des mesures adaptées.
Il faut réagir, c'est la période, c'est la saison. Si vous êtes au bord de la mer, ne jetez surtout pas vos déchets et surtout pas d'objets en plastique. C'est super important, mais vraiment, on a l'impression que c'est anecdotique, mais pas du tout. Il ne faut pas jeter ces objets plastiques.
Ni des mégots.
Ni des mégots. Voilà, on va terminer avec une citation de Gandhi qui figure dans le livre. Vivons plus simplement afin que d'autres, tout simplement, puissent vivre. Merci beaucoup Denis Chevalier.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accueillis ici à Marseille au Mucem. Merci Franck Pourcel.
Merci à vous.
À très bientôt. Vie d'ordure est parue aux éditions Artlis et l'exposition ici au Mucem à Marseille se tient jusqu'au 14 août. Merci à vous.
À bientôt.
On quitte Marseille et on retourne dans cette plus grande librairie du monde. On part au Canada tout de suite avec Jérémy Laniel. Coup de gueule ou coup de cœur, Jérémy ?
d'après vous, Emmanuel?
Coup de gueule.
Coup de gueule sur l'accessibilité des livres francophones les publiés terribles. Hors France. Oui. Non, je suis pas terrible, mais il y a à peine une semaine, Emmanuel, le Québec était à l'honneur au Salon du livre de Genève. On s'est croisés, on a fait une émission, la réception fut grandiose, les lecteurs suisses étaient avides de découvertes et les convertis achetaient comme s'il n'y avait pas de lendemain, sachant que les livres que nous présentions, ben, ils n'étaient pas disponibles en Suisse. Nous participons à cette émission, la librairie francophone, parce que on croit en cette francophonie, hein. C'est ce qui nous lie, c'est l'amour de cette langue, de cette littérature que nous réunissons chaque semaine. Mais comment se fait-il qu'en 2017, Emmanuel, les auteurs et les éditeurs suisses, belges, québécois, camerounais, martiniquais et d'autres soient si difficilement accessibles sur nos territoires respectifs si les bouquins ne sont pas publiés par la sacro-mère patrie française? Je trouve désolant que cet accès à la littérature d'une même langue soit encore si restreinte par des aléas économiques et des facteurs de marché régissant une distribution partielle et chauvine des grands groupes éditoriaux. Bien que je n'ai pas de solution, je souligne tout de même que nous devrons agir.
Très bien, ça c'est un coup de gueule, hein, Jérémy. Tout le monde est subjugué là.
Sur...
Voilà. Mathieu Colomb est d'accord, tout le monde est d'accord, c'est vrai. Alors on contribue, hein, parce que depuis que l'émission existe, il y a des choses qui ont été faites dans ce sens-là. On a incité d'ailleurs certains libraires à pouvoir commander les livres. Il y a des librairies aussi qui se sont installées en Belgique et qui portent la littérature québécoise, en France qui portent la littérature québécoise. Il y a beaucoup de choses, hein, qui se passent, mais ce n'est pas assez. Voilà, c'est dit. Merci Jérémy. Dominique Bressou, on a très peu de temps du coup pour la suite. Comment ça se passe chez vous? Coup de cœur ou coup de gueule?
Un grand coup de cœur pour un recueil de poèmes de Françoise Mattet, édité chez Empreinte, au titre merveilleux de « Avec la connivence des embruns ». Ça a été inspiré par un séjour à l'île de Groix, et l'auteur y transcrit ses pensées en les fondant dans la musique des vagues et nous fait percevoir ses tourments sur le ressac. Pour qui pense que tous les chagrins peuvent se noyer dans la mer, c'est souverain d'être en connivence avec les embruns.
Avec la connivence des embruns aux éditions Empreinte. Merci Dominique. La librairie francophone avec Serge Marquis et Patrice Lecomte en plateau. Nous allons parler du don d'ubiquité avec votre roman, Patrice, et au-delà du double rôle d'ailleurs que jouent les acteurs et nous-mêmes parfois. Que feriez-vous si vous aviez ce don d'ubiquité, vous?
Je crois que je serais excité comme une puce, pardon pour l'expression, un peu d'imagination. Ça m'exciterait beaucoup d'avoir ce don, et je pense que j'en jouirais pendant une semaine, 15 jours, un mois.
Seulement?
Ou plus, mais je pense que très vite, je me rendrai compte de la réalité qui est la nôtre. C'est que penser à chaque fois que ailleurs l'herbe est plus verte et qu'une double vie est une vie plus emballante n'est pas forcément la solution. Autant se contenter avec gourmandise de la vie qu'on a.
Très bien, décryptage dans un instant. Voici en avant-première, avant cela et en exclusivité d'ailleurs, un extrait du nouveau disque de la Québécoise Ariane Moffat qui a enregistré un petit concert dans une toute petite salle de Montréal juste après l'annonce du décès de Leonard Cohen et un an jour pour jour après les attentats du Bataclan. Voici son tube Hôtel Amour, réarrangé. C'est sublime. Écoutez, c'est dans la librairie francophone. Dans ma tête, il y a
trois concerts de deux jours dans une minuscule salle de 115 places. Une première au lendemain de l'annonce du décès de notre ô combien regretté Leonard Cohen. Un an jour pour jour après les attentats du Bataclan, l'ambiance était au recueillement. Les chansons choisies se voulaient réconfortantes, destinées à réchauffer les cœurs. Parce qu'à ce jour, je n'ai trouvé aucun meilleur allié que la musique pour sublimer, transcender et insuffler un peu de lumière sur les jours plus obscurs. Ariane Moffat. C'était donc un extrait de ce petit concert Hôtel Amour d'Ariane Moffat sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Patrice Lecomte est dans la librairie cette semaine pour son roman Louis et Lubic paru chez Artaud. Alors Louis est un jeune homme de 40 ans, marié, oisif, obsédé par le poids des choses. Il pèse tout, il a une passion pour les balances, même le poids de ses membres. Tous ses membres l'intéressent, il ne fait rien de ses journées. Non mais c'est vrai, je vous assure. Jusqu'à la mort de son père.
Oui, oui, il est délicieusement oisif. C'est vrai qu'il est obsédé, parce qu'il faut bien occuper ses journées, il est obsédé par le poids des choses. C'est vrai qu'il est obsédé, évidemment, par son propre poids, mais par le poids d'une pince à linge ou d'un marteau ou n'importe quoi. Tout ce qui tombe sous la main, il a une batterie. Et le jour où son père meurt, son père lui lègue un petit appareil magique qui se transmet de père en fils depuis des générations et des générations et qui lui permet très simplement de jouir du don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être à deux endroits à la fois.
Voilà, alors il est comme ça avec ce bracelet, un petit peu embêté parce que à la fois son père s'en est beaucoup servi, il était très apprécié au travail, ça lui permettait d'être partout à la fois, donc tout le monde disait mais comment ça se fait que cet homme arrive à faire autant de choses, autant lui, comme il n'a pas vraiment de famille, il a juste sa compagne, il n'a pas beaucoup d'amis, il n'a pas d'enfants, il n'a pas de travail.
Mais surtout, pire que tout, c'est qu'il n'a pas grand-chose à foutre de ses journées.
C'est ça, je ne voulais pas le dire comme ça, mais c'est ça.
Mais c'est ça, on peut le dire comme ça. Oui. Et c'est ça qui m'a amusé, parce que, au-delà de Marcel Aimé et quelques autres, je ne suis pas le premier à parler d'ubiquité.
Évidemment, on pense à Marcel Aimé.
Bien sûr, on est obligé. Moi, ce qui m'a amusé, ce n'était pas tellement de faire un roman qui parle d'ubiquité, mais c'était de faire tomber ce don d'ubiquité sur les épaules de quelqu'un qui ne savait pas quoi en faire. Et c'est ça qui m'a fait marrer. Et donc, il ne sait pas quoi faire de ce truc-là. Dans un premier temps, il s'amuse à prendre son petit déjeuner tout en prenant sa douche, donc c'est une ubiquité qui n'est pas très intéressante, ça lui fait gagner du temps alors qu'il n'a même pas besoin d'en gagner, et puis de fil en aiguille on en arrive à des extravagances.
Il y a un mystère, Patrice Lecomte, parce que je rentre un peu dans le truc, mais comment peut-on avoir la tête et l'esprit à la fois à un endroit et à un autre en même temps? Ça c'est le grand mystère du livre qui n'est pas du tout évoqué d'ailleurs. Comment on peut penser dans la cuisine, comme vous le disiez, et en même temps dans la salle de bain?
Quand on est multiplié par deux, on a deux cerveaux, donc on pense à deux trucs, on pense dans la salle
de
bain.
On a deux cerveaux, oui.
Bah oui, évidemment.
Mais c'est la seule condition que j'accepterai, donc deux cerveaux.
Ah bah attendez, si vous faites un double de vous, Emmanuel, que vous l'emmenez je sais pas où.
Oui.
Et que ce mec a pas de cerveau.
Bah oui, ça sert à rien.
C'est
ça.
C'est gâché. Quoi.
C'était ma grosse angoisse quand j'ai lu le livre. J'ai dit, comment fait-il?
Non.
Bon. Alors, un peu comme un acteur, il va, comme ça, comme sur un tournage, hein, en fait, parce qu'il va commencer une nouvelle vie lorsque sa compagne part au travail. Et quand elle rentre, pas de souci, car son moi 1 pourra être à la maison pendant que son moi 2 fera la fête dans le lit d'une jeune femme. Et la conscience dans tout ça?
Ah, la conscience n'est pas multipliée par deux, ça je vous l'accorde, en effet.
Oui. Mais elle est proche de zéro même. Hein.
Oui, mais il y a une moralité à la fin, mais dans ces moments-là, il y a pas de moralité du tout. Oui, parce que ce qui est vraiment merveilleux avec cet appareil, que j'ai cherché partout et qui n'existe pas, c'est un petit peu emmerdant. Et ce qui est vraiment merveilleux avec cet appareil, c'est que vous appuyez sur un petit bouton qui vous transporte ailleurs, dans cet endroit que vous connaissez. Mais si jamais ailleurs, donc vous êtes un mois, deux, Emmanuel II. Si dans cet ailleurs, ce que vous essayez de mettre en place se passe mal, pour des tas de raisons, vous rappuyez sur le bouton, et vous réintégrez votre moi 1, vous redevenez une seule personne.
Emmanuel 1 revient.
Donc, oui.
Ça fait un peu film érotique, hein, tout ça.
Un peu, oui. On n'a pas eu ça. Et c'est vrai que ce petit appareil, et Louis le comprend très vite, autorise toutes les audaces, puisque aucune situation, quelle qu'elle soit, ne peut tourner mal dans la mesure où on peut y mettre un terme.
Et d'ailleurs, c'est ce qui se produit, parce qu'il a une Ferrari rouge, il roule comme ça, comme un fou sur les routes, et puis quand la police arrive, l'arrête sur le bas-côté, et puis ils arrivent, et puis il n'y a personne dans la voiture.
Ah bah non.
C'est génial. Bon, c'est génial, faut pas faire ça, mais bon. Quatre libraires.
Faut pas le faire, vous pouvez pas le faire.
Mais j'ai pas de
d'abord,
Ferrari.
Vous n'avez qu'une Aston Martin.
Peut-être.
Non, moi non plus. rassurez-vous. Et puis surtout, quand vous faites arrêter par un radar à 240 à l'heure, allez quitter la Ferrari.
Bon, quatre libraires, les quatre ont lu votre livre, Patrice Lecomte. On va commencer par le Canada, hein, ce sera fait comme ça. Non, qu'en pensez-vous?
Celui que vous appelez l'ogre terrifiant.
J'ai pas dit l'ogre.
Non, je suis sûr que c'est un charmant garçon.
Jérémy Laniel, on va voir. Jérémy.
Oui, je suis quand même charmant malgré tout. Mais lorsqu'on m'annonce un roman comme une fable, je suis rarement bon public, hein, à part lorsqu'on flirte un peu avec le conte cruel. Mais ici, j'ai trouvé que le conte signait un roman sans grandes envergures, quelques centaines de pages, à voir si l'herbe était peut-être plus verte chez le voisin. Mais au final, hein, un peu comme dans le bouquin de Marquis, j'ai trop l'impression qu'on me pointe quelque chose du doigt tout au long de l'histoire, plutôt que de me laisser errer, moi, lecteur indépendant, dans le roman.
C'est un divertissement, Jérémy, quand même. Mais oui, il faut le prendre comme un divertissement. C'est très drôle. Dominique, pour la Suisse, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Pas du tout, non. Moi, j'ai passé un très bon moment à lire ce roman. Il y a certaines scènes qui sont vraiment cocasses et le tableau final, c'est une apothéose hilarante. Mais ce qui rend ce roman vraiment intéressant à mes yeux, c'était le contraste entre tous les possibles offerts à Louis sur un plateau doré et une certaine forme de désespoir qu'il a de ne pas savoir qu'en faire. Ce qui prouve qu'on se prend déjà la tête avec une seule vie, mais alors avec plusieurs.
Mathieu, pour la France, séparez-moi ces libraires.
Oui, on va essayer. Alors déjà, bon, effectivement, moi j'ai beaucoup ri à la lecture de ce roman, évidemment. Parce que c'est quand même très très drôle. En plus, j'ai bien aimé le fait qu'il renoue avec cette vieille tradition française, comme vous l'avez dit, du roman fantastique. Ensuite, la chose qui est quand même intéressante derrière, c'est qu'il y a, une petite réflexion sur l'être humain. Parce qu'au final, ce type, il a effectivement plein de possibilités, et tout fantasque qu'il soit, il reste humain. Et donc, du coup, on sait que l'être humain, il brille rarement par sa grandeur d'âme.
Alors, il y a une fin, on ne va pas raconter la fin, Patrice Lecomte, mais il y a une fin absolument absurde, complètement farfelue. Il est au cinéma avec une conquête. Ils sont allés voir un vieux western de John Ford. Et il se passe un truc complètement fou, incroyable. On comprend alors toute la démonstration de votre roman, Patrice. On joue tous un rôle dans notre vie.
Oui, c'est sûr. Ou en tout cas, je ne sais pas si on joue tous un rôle, mais on a souvent l'impression de jouer un rôle. Ou le désir, ou l'ambition de jouer un rôle. Et souvent, on n'est pas fait pour ce rôle. Et on devrait surveiller un petit peu mieux le casting de notre vie quotidienne, notre propre casting, si tant est qu'il existe, et se contenter avec sincérité d'être qui on est et de pas chercher à être quelqu'un d'autre.
Mais c'est vrai que votre histoire, elle relativise aussi le travail des acteurs qui, d'une certaine façon, ont ce don d'ubiquité puisqu'ils endossent plusieurs rôles, comme ça, parfois même en même temps, avec des personnages différents. Et ce qui peut, à force, les perturber mentalement, ça peut arriver, ça?
Oui, enfin,
comme votre personnage,
l'acteur à peu près équilibré sait résister à ça. C'est pas parce qu'il incarne un salopard qu'il devient schizophrène et qu'il devient un salopard. Enfin, voilà,
ça doit perturber un moment, non?
Oui, c'est-à-dire que quand on se plonge jusqu'au cou et avec sincérité, encore une fois, et avec passion et enthousiasme dans un personnage qui n'est pas soi-même, forcément, ça trouble un peu. Il y a un exemple très très rapide, rassurez-vous. Quand j'ai tourné ce film qui s'appelle toujours Monsieur Huir avec Michel Blanc, c'était un rôle très très intérieur pour Michel, qui était un acteur plus cocasse. Et Michel m'a avoué à la fin du tournage que quand il rentrait chez lui le soir, il mangeait un petit bol de soupe, il se couchait, il regardait un peu par la maison et il continuait à être Monsieur Huir. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à débrancher ce Monsieur Huir qui l'envahissait.
Mais je pense au mythomane, par exemple, qu'ils vivent une double vie, pour le coup, et qui à force se convainc comme ça, d'un côté ou de l'autre, ils basculent.
Oui,
c'est ça, c'est le basculement, ce que fait votre personnage, il bascule.
Il va
déraper un moment, là aussi on ne peut pas tout raconter, mais il va presque violer une femme parce qu'il croit qu'il est tout-puissant.
Oui, il y a une espèce d'immunité, non pas parlementaire, mais une immunité de l'ubique et de l'ubiquité. L'ubique le pousse à être lubrique.
Alors ce livre, c'est aussi une réflexion sur le pouvoir de l'argent. Louis est très riche, on l'a pas dit, mais il a vendu un brevet d'une balance parfaite. C'est pour ça qu'il ne fait rien, qu'il est oisif, parce qu'il a tellement d'argent qu'il ne sait qu'en faire. Mais sa compagne, par peur des jalousies et des jugements, leur interdit d'en profiter. Et on se demande vraiment tout au long du livre, Patrice Lecomte, comment peut-on vivre dans cette frustration quand on a les moyens de vivre sans retenue?
Ça je sais pas, mais c'est vrai qu'elle, elle est pas du tout rabat-joie ou éteignoir et tout ça, elle est juste modeste. Et
elle ne veut pas. Elle est un peu rabat-joie.
Je pense qu'elle est bonne. Et puis que surtout, elle est un poil caricaturale dans sa modestie. Mais vous savez, c'est un petit peu comme les gens qui gagnent au loto, par exemple, des sommes fabuleuses. D'un seul coup, ils s'achètent, alors eux, pour le coup, des Ferrari, de toutes les couleurs, toute la gamme, avec toutes les options. Et ils deviennent, à cause de l'argent, d'une arrogance formidable, quoi. Et détestable, évidemment. Et je pense que d'être à la tête d'une petite fortune, d'en profiter trop, c'est dégueulasse, et de s'interdire d'en profiter, c'est navrant. Donc ça, je ne sais pas.
Mais elle se préserve
donc,
de ça.
Ça tombe bien, nous ne sommes pas riches, nous, donc on n'a pas ce problème.
Vous, Patrice, un petit peu, plus que nous tous.
Non, moi je vis agréablement, non, oui. Je ne suis pas un homme riche.
Non, vous n'êtes pas riche.
Non, je ne suis pas pauvre.
Bon, allez, le mot de la fin,
c'est... juste entre les deux.
C'est pour un libraire. Annick Dor pour la Belgique, à vous de conclure.
Ben oui, moi j'ai passé aussi un très bon moment de lecture. Je trouve que l'histoire fonctionne à merveille. Le personnage est bien campé, même si sa mollesse est gentiment horripilante. Donc un livre qu'il faut prendre, je pense, pour ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est une extravagance, rafraîchissante. Et voilà, c'est léger, c'est inopiné, c'est surprenant. C'est un petit peu dérisoire, mais je pense que voilà, la futilité et le négligeable sont, pourquoi pas, des valeurs à cultiver dans notre monde de brut.
Une réaction?
Oui, mais je trouve, merci infiniment, parce que je trouve que la légèreté, on dit que c'est un défaut, c'est-à-dire quand on dit qu'elle est un petit peu légère, ou il est un petit peu léger, ou un texte est léger, mais la légèreté, moi je trouve que c'est une qualité formidable.
Merci beaucoup Patrice Lecomte,
merci
infiniment pour votre générosité et merci d'être revenu dans la librairie francophone. Louis et Ubique est paru aux éditions Artaud, enfin un vrai roman drôle et divertissant. Merci à vous, à bientôt.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Guérald.
Et avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone avec le duo Polo et Pan.
Je me baladais, j'étais perdu quand je t'ai croisé dès l'inconnu. D'un simple regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plu.
Polo et Pan avec un extrait de Cœur croisé que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Serge Marquis.
Merci Emmanuel.
À très bientôt. Merci Patrice Lecomte. À la réalisation, Hélène Bizio avec Elodie Royer, Jean-Baptiste Audibert à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Laure Grand-Besançon, Alice Archimbault et Marie-Louise Beau en France, Martine Bégafelé et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepude en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. À la semaine prochaine, même jour, même heure sur votre radio francophone. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à travers le monde. Bon week-end et bonne semaine à vous.